Bonjour, vous êtes bien dans notre émission Underscore. Il y a des petits bonds dans le temps qui nous emmènent la tête dans les étoiles, et surtout d'un satellite qui nous fascine depuis la nuit des temps.
Bonjour Mémiman.
Bonjour Doudou, bonjour Cécile.
Bonjour
Mémiman, salut Cécile.
Bonjour les auditeurs. Alors ça y est, vous avez pris le pas. Alors rappelez-vous que c'est à 12h15 que Underscore arrive sur votre grille des programmes.
On a failli oublier de vous le dire la dernière fois quand même.
Voilà, il faut une remise en route parce que voilà.
Ah, c'est la rentrée.
C'est la rentrée, donc voilà, il faut se remettre dans le bain. Donc sachez que vous pouvez y trouver nos émissions à 12h15 le dimanche et une rediffusion le samedi suivant à 12h15.
Et puis toujours sur Radio Méga, le site de Radio Méga et puis AAA.fr.
Bien sûr. Et puis, effectivement, le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez tous deviné, ça sera pas... Eh ben non, ça sera pas le soleil.
On va s'envoyer en l'air.
Ouais, on s'envoie en l'air.
On s'envoie en l'air dans les étoiles.
Dans les étoiles, jusqu'à la Lune, puisque j'ai pu avoir la chance de voir le film Apollo 11 qui est sorti au cinéma de manière très discrète. Donc, je vais vous en parler après. Mais tout de suite, passons à l'actualité.
À l'actu, qu'est-ce qu'on a ?
Alan Turing sur les nouveaux logiciels anglais de 50 livres.
Les nouveaux billets.
Des nouveaux Alan
c'est
Turing.
C'est bien écrit billets, hein, je confirme.
Sur les nouveaux billets anglais de 50 livres.
Tu veux mes lunettes ?
Oui, j'en ai besoin. Donc l'informaticien, dont la réhabilitation a été lente, sera enfin honoré sur les coupures de 50 livres britanniques. Ah oui, c'est vrai, eux, ils sont pas en Europe.
Bah non, ils ont toujours leur monnaie. Qu'est-ce qu'on a ? La FTC et Facebook passent un arrangement pour 5 milliards de dollars. Voilà, la Federal Trade Commission met ainsi fin à une enquête sur les pratiques du géant concernant la vie privée de ses utilisateurs. C'est quand même bien pratique ça, on paye et hop, le problème disparaît.
L'Université de Californie stoppe ses abonnements aux publications d'Elsevier. Ils en ont eu marre de payer des sommes astronomiques pour avoir accès aux revues certes prestigieuses, mais payantes. Reste à voir comment ils vont faire pour se tenir au courant de l'état de l'art.
Oui, rappelez-vous, on vous avait fait un sujet sur ça. Hein,
La fibre va pouvoir se pendre au poteau EDF grâce à un accord avec Enedis, ce qui devait accélérer un peu son déploiement dans les campagnes en limitant les coûts.
Chouette, hein, on l'aura peut-être avant 2050.
Oui.
CloudWatt fermera le 31 janvier 2020. Teddy Riner avait déjà trouvé un autre produit à promotionner, donc on n'a pas trop de soucis à se faire pour lui. Par contre, pensez à récupérer vos données avant cette date si vous avez des données chez CloudWatt.
Apple va revendre des pièces à certains réparateurs agréés. Après avoir bien lutté contre les tentatives d'inscrire dans la loi de 20 États américains le droit à la réparation, ils annoncent fièrement qu'ils vont enfin proposer des pièces à certains réparateurs choisis. Louis Rossman, d'habitude assez critique d'Apple, les a félicités pour cette avancée, même si elle reste assez limitée.
Et ouais, tu veux pas lire la suite ? Si, non, bon, je m'y colle alors. Recours collectif de clients d'Apple. Il reproche de ne pas avoir mentionné que les données déposées sur iCloud étaient parfois stockées par des tiers. Ce n'est pas Steve Wozniak qui va les démentir, il a récemment dit qu'Apple aurait dû être démantelé il y a longtemps.
L'Allemagne bannit Windows 10 et Office 365 de ses écoles. La CNIL allemande vient de rendre un jugement en Allemagne interdisant l'utilisation de données de Windows 10 et de Office 365 dans les écoles, car ces produits enfreignent le RGPD, notamment parce que trop de données sont envoyées aux US. A priori, ce devrait être aussi le cas en France, vu que le RGPD est le même. Hein. Reste à voir ce qu'il en dira notre propre CNIL. Hein. Les Pays-Bas ont aussi prononcé un bannissement partiel.
Le ministère de l'Intérieur migre sur Nextcloud, rejoignant ainsi le ministre néerlandais de l'Éducation, les agences du gouvernement suédois et le gouvernement allemand. Après une phase de test de plusieurs mois, ils vont maintenant procéder au déploiement pour 100 000 utilisateurs.
La gendarmerie française neutralise plusieurs centaines de milliers de machines d'un botnet. Alors si c'est une bonne nouvelle pour la sécurité numérique, ça pose quand même la question de l'extraterritorialité de l'action et donc de sa légalité, puisqu'en fait ils ont agi sur des machines qui n'étaient pas sur le territoire français.
Un fork de GIMP juste pour changer de nom ? Alors le goût des programmeurs est parfois un peu limite, et certains noms de logiciels ne plaisent pas à tout le monde. Il semble que ce soit le cas pour GIMP, qui veut dire boiteux en anglais. Aussi certaines personnes ont décidé de forker pour changer de nom, sans même en discuter avec l'équipe, même s'ils prétendent vouloir aussi améliorer l'interface, avant-le, oui, il en a besoin. Ils ne semblent pas avoir fait beaucoup de modifications depuis le fork.
Et ouais. Bon, c'est tout pour les actus.
C'est tout pour les actualités. Nous allons nous retrouver tout de suite après la pause musicale. Rendez-vous sur la Lune.
Ok.
Wow.
On n'a pas envie d'arrêter, mais bon, ça dure 7 minutes, alors si on veut faire une émission...
Ouais, surtout qu'il y a plein de choses à dire, en fait, Rodoudou ouais. est en train de me dire « Mais c'est toi qui vas lire tout ?» Alors non, aujourd'hui on va essayer de s'abstenir de vraiment lire tout, parce qu'il y a vraiment trop d'informations.
À piocher.
Mais ouais. on vient piocher pour vous donner...
On vient piocher, ouais, comme les autres.
Piocher.
Donc c'était Kébu, le carnaval des étoiles.
Ça tombe bien, hein.
Ouais, alors c'est un morceau qui est fait que avec des synthés analogiques. Donc c'est tiré de son album To Jupiter and Back. Donc je vous invite à aller regarder sur YouTube, il a une chaîne, ouais. il a plein de vidéos, il fait
c'est
plein
chouette.
De reprises de morceaux des années 80. C'est,
ouais, ça faisait
c'est
très
magnifique,
Jean-Michel
il y en a que
Jarre,
je passe 3 ou 4 fois en boucle des fois. Donc, ouais,
il,
c'est un, plus ou moins un hommage aussi à cette époque-là. Quoi.
Super. Eh bien effectivement, le sujet du jour, ça va être sur la Lune, mais plus précisément les technologies qu'on a utilisées dans la mission de Apollo 11. Alors, sur le film, hein, bien sûr, on va vous faire écouter un petit peu la bande-annonce.
I'd like to know what you feel as far as the responsibilities of representing mankind on this trip.
That's relatively difficult to answer. It's a job that we collectively said that was possible and we could do, and
And of course, the nation itself is backing us, so we just sincerely hope that we measure up to that.
Suspense.
Ah ouais.
The whole Apollo program was designed to get two Americans to the lunar surface and back again to Earth safely. The enormity
safely, c'est bien,
of this
ouais.
event is ouais. something
Mais
that only Hitler
entier,
will
garçons.
Be able to judge.
Apollo 11 has very simply been given the mission of carrying men to the moon, landing them there, and bringing them safely back.
Mm.
Go.
Go for landing.
Hey. Contact.
Et du bon wow. là aussi. Hein.
Mais ça vous a pas rappelé un petit peu.
Le générique de Stranger Things ?
Un peu, ouais.
Les années 80.
Et pourtant, là, tu es en 1969, hein, donc s'il y a bien des choses qui n'ont pas échappé à certains geeks qui ont souvent la tête dans les étoiles, c'est bien la sortie au cinéma du film Apollo 11. Celui-ci nous plonge au cœur de la plus célèbre des missions de la NASA. Et des premiers pas de l'homme sur la Lune. Ce film est un voyage en immersion aux côtés des astronautes et du centre de contrôle qui permet de vivre au plus près les inoubliables journées de 1969 dont on célèbre le 50e anniversaire cette année. Donc j'ai profité de la dernière séance qui était disponible à Valence.
Ah j'ai raté ça.
Et autant... pour vous dire que j'ai pu observer là-bas avec beaucoup de curiosité les outils de l'époque. Et ça m'a beaucoup fasciné en me disant, mais quelles étaient les technologies utilisées à l'époque ? Parce qu'il faut s'imaginer qu'on a envoyé des hommes sur la Lune avec une
on
technologie...
Avait
on
n'avait pas d'iPhone !
Oui, on n'avait pas d'iPhone. On avait une technologie qui était bien inférieure à celle que vous avez aujourd'hui dans votre poche avec votre smartphone. Le film était disponible du 4 au 8 septembre uniquement. Dans certaines salles, il a été disponible aussi en IMAX. Et là, je pense que
ça devait être pas mal.
Ça devait être magnifique. C'est vrai parce que quand on se rend compte un petit peu de la qualité des images, en fait, c'était déjà en 70 mm. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en fait, à la base, c'était plutôt du 35 mm. Et là, on était directement dans du 70, donc ce qui veut dire une technologie qui se rapproche un peu de l'IMAX d'aujourd'hui. Et nous avons aussi, effectivement, nous avons eu presque 11 000 heures de ces bandes qui ont été, des enregistrements audio qui ont été découverts récemment. Et du coup, ils ont pu justement faire un film en rassemblant les photos prises par les astronautes, les photos de l'époque aussi qui ont été prises forcément sur Terre.
Et dont certaines qu'on n'avait pas forcément vues parce qu'en fait, on avait tout le monde... Les gens à l'époque avaient vu la retransmission télé, mais avec une qualité absolument minable.
Oui, bien sûr.
Mais ça avait aussi été filmé par des caméras avec des pellicules.
Mm.
Et du coup, c'est pas du tout la même qualité d'image.
Quoi. Absolument pas. Et là, c'est une belle découverte parce que voilà, aujourd'hui, c'est à peu près des images 4K hein, parfois qu'on peut carrément proposer. Alors pour sûr, les outils de l'époque étaient très rudimentaires. Hein, une des contraintes soulevées par la NASA à l'époque, c'était effectivement de rendre la fusée, enfin les modules qui partaient dans l'espace autonomes, parce que voilà, ils avaient la trouille avec les Russes qui auraient pu prendre le contrôle depuis la Terre.
Oui.
Donc, ils ont essayé de réfléchir un petit peu comment ils allaient pouvoir envisager les solutions, parce que oui, les Russes à l'époque, ils étaient plus en avance, ils avaient déjà envoyé des animaux, des chiens, des humains, ou même un singe, hein, il me semble bien.
Et sur la Lune, ils n'avaient pas envoyé un satellite aussi ?
Alors,
enfin,
ils
pas
avaient...
satellite, mais un module, ils avaient fait des trucs.
Ouais, il y a eu des tentatives, alors je ne sais plus si c'était posé ou si c'était crashé, mais...
Ou ils avaient fait le tour, ils
alors,
avaient peut-être
je,
fait le
je
tour.
Je crois me rappeler, parce qu'il y a eu pas mal de... outre le film, il y a eu pas mal de documentaires qui sont passés cet été, sur Arte notamment, donc il y en a pas mal aussi, si vous n'avez pas vu le film et que voulaient quand même voir des images. Et il me semble qu'il y avait, je sais plus, pendant la première mission justement, où ils sont vraiment posés, en fait, il y a les Russes qui ont lancé un truc et il s'est crashé genre pas très loin en fait. Donc ils se sont demandé est-ce que c'était pour nous observer ou est-ce que c'était pour nous faire échouer quoi.
Donc, ouais. Donc en fait, ils ont essayé de faire évoluer les technologies qu'ils avaient, qui étaient très rudimentaires, pour placer des ordinateurs directement dans le module lunaire pour pouvoir faire justement le pilotage. Et il faut s'imaginer que les ordinateurs de l'époque, ça tenait dans des pièces entières, c'était à tube, c'était lent. Et la fusée, elle faisait quand même 3000 tonnes. Donc vous imaginez déjà qu'elle était bien lourde. Pour la faire décoller, vous imaginez, ouais. Bon, c'est sûr que le carburant à l'époque, il n'était pas au même prix qu'aujourd'hui, donc c'était un peu plus facile de faire partir 3000 tonnes. Néanmoins, on n'allait pas pouvoir mettre les ordinateurs qu'ils avaient disponibles.
C'est pas qu'une question de poids, c'est une question de place aussi. Ouais.
Aussi, une question de place, c'est une question de miniaturisation qu'ils ont commencé à apporter à l'époque. Alors, la technologie au sol, donc la mission Apollo, s'est appuyée sur plusieurs ordinateurs différents. Avec des innovations aussi bien au sol que dans les navettes. Donc au sol, on avait des IBM, les ordinateurs centraux utilisés pour les programmes Mercury et Gemini, ce qui a permis de découvrir les limites de ces machines. Le fabricant en a sorti en 1964 une nouvelle série d'ordinateurs baptisée Système 360, qui pouvait être enfin mis en réseau, ce qui était nouveau à l'époque. Vous imaginez quand même, le réseau n'existait pas. C'était une nouveauté. Et ils étaient équipés d'un système d'exploitation appelé OS 360 qui avait la particularité déjà d'être multitâche. Donc c'est ouais.
Multitâche.
C'est ça. Si tu t'imagines dans les années 90 quand Windows 3.1 a été lancé pour tout le monde et qu'il faisait qu'une tâche à la fois.
C'était les tout débuts de avant Unix. Hein, c'était les débuts de Multix aussi. Donc le multitâche, ouais, ça commençait à peine. Hein.
Le seul défaut de ces IBM système 360 modèle 75 était au niveau de la mémoire principale, limitée à environ 1 mégaoctet. Oh, vous imaginez 1 mégaoctet ?
C'est énorme !
C'est énorme ! Les ingénieurs avaient prévu que les missions généraient trop de données pour les ordinateurs et ont dû créer des abréviations pour économiser la mémoire. Vous imaginez déjà le code, il faisait déjà de l'optimisation en termes de développement. Ah ouais. Pas comme aujourd'hui où là, c'est un petit peu, on empile. Hein.
Ouais.
Alors au niveau du vaisseau en fait Apollo, en fait on avait l'AGC, donc le Apollo Guidance Computer. Donc la NASA a confié au MIT la tâche de créer l'Apollo Guidance Computer, donc l'AGC, qui devait être donc respecter certaines contraintes, dont être petit, de faible consommation, parce que forcément ça allait être difficile de pouvoir l'alimenter.
Ah, il n'y avait pas la prise sur la Lune. Donc,
Un peu, ouais.
Alors, je ne sais pas s'ils avaient déjà des panneaux solaires à l'époque, ou je pense que ça devait être plutôt un générateur embarqué.
Nucléaire.
Oui, déjà ils ont beaucoup fait ces trucs-là. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas. On est très limité en consommation. Quoi.
Alors, l'ordinateur était donc de faible consommation. Il devait être capable de gérer la navigation d'un voyage vers la Lune, ou à une époque où les ordinateurs et tubes effectivement prenaient une place entière. Et il a repris la technologie de guidage du missile Polaris avec un gyroscope et des accéléromètres combinés à un sextant pour déterminer la position de la navette. Non, parce que dans le film, on voit, ils sont en train de se dire, alors le module, on va le faire, on va le détacher ont détaché les deux modules. Il y en a un qui a fait un 360 pour se raccorder de l'autre côté, mais...
Oui.
Personnellement, ça me fait flipper, quoi. Parce que t'es en plein milieu de l'espace quand même. Tu te rates, c'est fini.
Oui, puis en plus, ouais, ça c'est de la navigation inertielle. En fait, tu échantillonnes, en fait, tu regardes est-ce que t'es toujours dans la bonne direction et tout. Puis en fait, le problème c'est que si t'as des erreurs, en fait, tu les accumules. Parce qu'en fait, c'est comme si tu comptes tes pas pour. Tu regardes si t'as tourné à droite ou à gauche pour savoir où est-ce que tu vas arriver, quoi.
Ouais.
Sans forcément avoir de repère. Donc au bout d'un moment, si tes pas ils sont un peu plus petits ou plus grands, tu es dans le mur, quoi.
Oui.
Donc ouais.
Et ils ont quand même bien réussi. Alors l'AGC en fait était une solution innovante, et notamment c'était le premier à utiliser les circuits intégrés. Donc l'AGC utilise 16 bits avec 72 kilo-octets de mémoire motte et 4 kilo-octets de mémoire vive. La mémoire morte stockait les programmes et avait la particularité d'être construite pour être impossible à modifier. Elle était construite à la main d'anciennes employées de l'industrie textile. Ah, des femmes, hein. Mmh. Et il faut bien le noter, hein, que c'était des femmes qui ont...
Il y a eu beaucoup de femmes dans...
Ils faisaient du tricot.
Dans l'industrie... non, mais pas, alors pas que, il y a eu ça, mais il y a aussi, même pour les calculs aussi...
Du tricot.
Il y avait des ordinateurs avec des fils électriques.
Alors, il faisait passer les fils électriques à travers, autour d'un anneau en fer pour programmer le code binaire. Et l'ordinateur était accompagné d'un appareil appelé DSKY, Display on Keyboard. Ah, un clavier ! Tiens !
Bah oui, oui.
Un clavier accompagné d'un petit affichage qui permettait aux astronautes de communiquer avec l'ordinateur. Oh, c'est une époque...
Oui, parce une interface homme-machine, quoi.
Et oui, parce qu'à l'époque, on ne cherchait pas à avoir un écran spécifique pour avoir
non,
un ordinateur.
Non, on n'avait pas ça. Hein. On vous a raconté l'histoire de la console, et puis, mais bien avant ça, c'était des cartes perforées, donc... les cartes perforées dans le module, ça devait pas être très pratique. Quoi,
en entrée, mais aussi en sortie. Ça crachait des cartes perforées.
C'est
donc,
ça.
Après,
donc,
pour les
voilà.
lire.
C'est compliqué.
Donc là, c'était quand même une grosse avancée parce qu'il y avait un afficheur qui donnait effectivement les coordonnées et tout. Et qu'est-ce qu'il faisait
Ouais, et l'ordinateur complet qui avait donc l'apparence d'une valise dorée.
Une grosse valise quand même.
Une grosse valise, ouais. Il pesait 32 kilos.
Une grosse valise, donc.
C'est comme certains transportables qui se vendent encore
ouais,
aujourd'hui.
Ouais,
ouais. Donc l'AGC avait été conçu pour être robuste, de manière à éviter les pannes dans une situation critique. Ah ouais, non, ça, un blue screen of death en plein milieu de l'espace.
Comment qu'on fait pour entrer ?
J'imagine que là, tu stresses. Donc les différentes tâches exécutées par l'ordinateur avaient chacune une priorité. Donc, il pouvait aussi ignorer une tâche secondaire pour se concentrer sur les processus prioritaires. Attention, hein. C'est vraiment du multitâche. Contrairement aux autres ordinateurs de l'époque qui répartissaient simplement le temps de calcul entre les différentes tâches, cette conception a d'ailleurs été salvatrice puisqu'une erreur de mémoire liée au radar est apparue au moment de la descente vers la surface dans le module lunaire. L'erreur étant considérée comme secondaire, ils ont pu continuer la mission. L'ordinateur a été redémarré. Vous imaginez, hein, ils ont fait un reboot dans l'espace.
Ouais, juste avant d'atterrir, quoi.
C'est ça. Et ils ont pu reprendre les programmes critiques au même point, en ignorant les tâches liées au radar et évitant ainsi aux astronautes de devoir annuler le premier atterrissage sur la Lune.
C'est quand même la classe.
Déjà que quand même, ils ont dû attendre pour quand ils allaient se poser, en fait, ils ont failli se poser dans un cratère.
Oui, alors en fait, du coup, c'est l'homme qui a repris la main parce que en fait, ils avaient dévié ou je sais pas. Enfin, du coup, ils ont vu qu'ils allaient se vautrer dans un endroit pas très plat. Ouais. Et donc, il a dit, je vais attendre un petit peu, je vais attendre. Sauf qu'ils avaient une dizaine de secondes de carburant, quoi. Donc,
ouais, c'était vraiment
c'était limite, quoi.
C'était du feeling, hein. Alors aussi nous avons les appareils photo et les caméras de l'époque, donc étaient de la marque suédoise Hasselblad. Il est doté de caractéristiques très spéciales. Selon la NASA, un quadrillage accolé à la pellicule pour mesurer la distance angulaire entre l'appareil et le relief lunaire, un revêtement métallique afin de résister aux fortes variations de température, un système de dispersion de l'électricité statique dangereuse pour la pellicule, un objectif de haute qualité conçu par l'opticien allemand Zeiss. Donc il y a eu plusieurs appareils photo de Hasselblad de 500L 70 mm qui ont permis de prendre des dizaines de clichés de très bonne qualité. Et ces appareils étaient motorisés et équipés d'objectifs Zeiss de grande qualité avec une ouverture moyenne. Donc aujourd'hui, les images de la Lune ont été rescannées. Mmh. On peut les voir en haute définition en 1800 dpi. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur Terre, finalement, vous aurez très très peu d'appareils. D'ailleurs, il y a des appareils qui ont été mis aux enchères. Mais pourquoi il n'y a plus d'appareils puisqu'ils sont partis avec quand même pas loin un peu plus de 25 appareils. Pourquoi ils sont pas revenus? Parce qu'en fait, ils ont troqué ça avec le sol lunaire. Et oui,
parce que c'était trop lourd.
C'était trop lourd, donc ils se sont délestés des appareils photo, ils ont tout laissé sur place et à la place, ils ont pris 20 kilos de cailloux. Je pense que quelque part il y a une arnaque, hein. Mais en fait, c'était
Ils ont au moins pensé à prendre les pellicules, c'est bien.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est bon.
Alors effectivement, vous avez aussi des outils qui ont été déployés sur la Lune, parce que oui, bien évidemment, les astronautes n'étaient pas faits pour faire que du tourisme.
Ça fait cher le tourisme, hein, même
ça.
Si les prix ont baissé. Mais...
Bien que poser un drapeau sur l'américain semblait être symboliquement intéressant pour eux, Il y a aussi vraiment une mission scientifique qui s'est déroulée, donc à savoir qu'il y avait quand même un sismomètre passif.
Sismomètre
passif. Qui a été posé, vous avez
parce que
eu...
oui, il y a des séismes sur la Lune, ils sont très faibles, mais il y a quand même des mouvements de...
Voilà, donc ça nous a permis de pouvoir détecter les... oui, ces mouvements de la Lune. Il y a aussi eu un réflecteur laser, également, vous avez
ça,
eu...
Ça permet de mesurer la distance jusqu'à la Lune, justement, et de se rendre compte que, qu'elle s'éloigne de 4 cm par an, ou un truc comme ça, je sais plus, il y a un truc... ouais. Donc, et c'est comme les catadioptres, hein, les trucs qu'on a sur les roues de vélo, par exemple.
Ouais.
C'est le même principe, il y a des grosses loupes et ça renvoie le laser. Et il met un peu plus d'une seconde pour y aller et puis une pour revenir, quoi.
Ouais, donc là, ils ont pu faire des mesures par rapport à ce qui conforte après tous les calculs que tu peux faire des objets célestes qui sont visibles depuis la Terre. Et vous avez aussi eu un collecteur de particules de vent solaire, un détecteur de rayons cosmiques.
Et ça fait des choses.
Alors, les petits plus sur ce film, forcément, c'est la qualité de l'image était au rendez-vous. Avec des films qui étaient quand même à la base, déjà du 30 images par seconde. Donc ça a permis déjà d'avoir une fluidité. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est à peu près sur du 60 images secondes sur certains films. Alors là, déjà 30 pour l'époque, rappelez-vous, on est en 1969, c'est quand même pas mal. Les photos aussi qui sont de bonne qualité et le plaisir de revoir des images de l'époque avec les habitudes vestimentaires, les coloris un peu orangés là, de l'époque. Il y a aussi les traits d'humour de Buzz Aldrin là, qui a été remarqué à un moment donné. Hey, tu fais quoi? Ah, j'ai fait joujou avec les commandes. Tout le monde l'écoute.
Tranquille.
Et le côté aussi sympa parce que du coup, entre les enregistrements sonores et les vidéos, ils ont pu synchroniser ce qui se passait, ce qui fait que...
Donc retrouver qui parlait sur les vidéos et puis remettre le son qui avait été enregistré dans cette personne-là.
Du coup, ils ont pu raccorder les bandes-sons aux images. Et du coup, tu as vraiment une immersion totale dans le film. Alors, bien sûr, il y a des petites choses qu'on aurait bien aimées qui n'ont pas été diffusées parce que voilà, ils ont vraiment pris du début de la mission jusqu'à la fin. En expliquant bien ce qui se passait et tout, mais on sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gens, on sait pas, c'est ça qui est un petit peu intéressant aussi, de voir un peu la suite de ce qui s'est passé. Mais bon, après je vous invite tous à aller sur Wikipédia pour voir après les émissions, les autres missions qui se sont déroulées par la suite.
Oui, il y en a eu plein.
Il y a eu plein de gens qui sont repassés après.
Et du coup, ils ont même restauré la salle de commande aussi de l'époque.
C'est fort
parce
possible.
Parce que ça prenait la poussière et tout, et ils ont tout nettoyé pour le 50e anniversaire.
C'est chouette. Le petit moins aussi, c'était une version française audio aurait été appréciée parce que pour les enfants qui ne savent pas encore tout à fait lire, ça aurait été un peu compliqué.
Ouais.
Alors la NASA, elle prévoit des choses pour 2020, donc c'est l'année prochaine, avec Orion, un nouveau vaisseau qui devrait abriter les astronautes et un équipement de recherche, une sorte de version améliorée des capsules Apollo 11. Orion sera combiné avec Space Launch System, une nouvelle fusée en cours de développement, et pour le futur, cette même station devrait être envisagée d'être envoyée vers Mars, pour 2030.
Voilà, ça c'est si Donald Trump ne change pas encore d'avis.
Ça, on ne sait pas.
Alors, on vous invite aussi à regarder, on vous mettra plein de liens, et notamment toute la playlist de la restauration de l'AGC, donc le calculateur de vol d'Apollo. Il y a des gens qui en ont repris le modèle qui reste là, et ils ont corrigé les bugs. Il y avait un bug dans la RAM, alors ils ont dû passer sur le bit de parité qui n'était pas utilisé. Enfin, c'est très amusant de les voir démonter le truc et puis de le voir brancher et ça tourne, ça marche.
C'est bien. Nous passons une petite pause musicale pour nous retrouver tout de suite après pour l'agenda.
Allez. Yeah.
Ah. Alors, Rodoudo est en train de nous parler d'un petit truc spécial, un petit truc pour ajouter sur la NASA. Mmh. Justement, sur le site de la NASA, on retrouve des magasins, c'est ça ?
Toutes les photos, alors elles n'ont pas été redécouvertes, c'est que en fait il y avait une quantité phénoménale de documents qui ont été mis de côté à l'époque et parce qu'il y a eu beaucoup de ratés. Donc alors, ils avaient des super appareils, mais il y a eu beaucoup de ratés, et donc ils ont gardé à chaque fois que les meilleures photos. Et effectivement, tout le reste s'est retrouvé archivé, et dernièrement quand ils ont tout repris, donc il y avait des magasins, parce que comment on change de pellicule dans l'espace, c'est pas très pratique. Ouais. Voilà, donc en fait ils avaient ça me fait penser à certains vieux appareils Kodak, où c'était plutôt une espèce de boîte qu'on en fichait derrière l'appareil, donc là ils avaient ça, des magasins, donc clac. Et là, donc, ils ont scanné toutes les photos. Donc, on peut voir aussi les photos ratées. Il n'y a pas que des photos parfaites. Et donc, parmi toute cette masse d'informations, effectivement, ils ont dû tout compiler là, pour faire le film.
Tout à fait, oui.
Mais c'est, voilà, comme tu disais, il y a 11 000 heures à l'époque. Et avec les outils, surtout avec les outils de l'époque, c'était un travail trop titanesque.
Oui.
Alors qu'aujourd'hui, on peut se faire assister. Alors déjà,
on peut même arriver à recombiner des photos ratées pour avoir une photo pas trop pourrie des fois.
Ouais. Faire ça.
Il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant qui n'étaient pas pensées.
Au niveau de l'audio et du labial, on peut avoir, je suppose, des outils qui t'assistent pour ça. Et puis on peut mettre 20 studios de montage en même temps. Ça coûte plus rien. Enfin, aujourd'hui, faire du montage vidéo, ça coûte plus rien.
Et ouais. Alors la musique, c'était...
Glacier, Smooth Maple.
Et ouais.
Et nous allons passer à l'agenda.
Eh ben ouais, qu'est-ce qu'on a à l'agenda ?
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée, lors des rediffusions le samedi.
Ouais, conférence Ardèche Drôme Dev, marché de l'emploi. Recruter, comment font les chargés de recrutement ? Qu'est-ce que la marque employeur des entreprises et à quoi ça sert ? Comment garder, prendre sa carrière en main ? Donc ça, c'est sur inscription, lundi 30 septembre, de 19h à 21h à l'UT de Valence, rue Barthélémy de la FEMAS à Valence.
Waouh, vous avez le Café Outils 37, découvrir les usages de la cartographie libre OpenStreetMap et Contribuez. Comprendre et utiliser OpenStreetMap, le Wikipédia de la carte. Pour comprendre le potentiel de cette base de données, nous vous proposons lors de ce Café Outils de découvrir des usages innovants. Par exemple pour faire une itinéraire cyclable, l'accessibilité, les pistes de ski, le transport en commun.
Les canaux de Valence.
Et ouais, ouais,
les canaux Valence les canaux sont aussi référencés sur OpenStreetMap.
Voilà.
Waouh, et d'ajouter en premier point dans la base de données pour devenir à vos tours contributeurs. Donc c'est gratuit, c'est sur inscription au Moulin Digital, 8 avenue de la Gare à Alixan, le vendredi 4 octobre à 8h45. Mettez vos réveils.
Ouais.
AG de G3L, si vous souhaitez participer à la vie de notre gule, n'hésitez pas. Ce sera le vendredi 4 octobre de 20h à 23h30 à la MJC Château Vert, Valence.
Voilà, c'est tout pour l'agenda.
Nous allons frotter la boule de cristal.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Alors, on va le frotter vite. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Oh, gamer ! Ah, le nouveau jeu qui est en fait le remaster de ton ancien jeu vient de sortir. Cours vite l'acheter !
Libriste, c'est la déprime. Ton gourou sans chaussettes est parti. c'est vache, ça.
Technophile, fais-toi greffer une puce NFC sur ton pouce. Tu n'auras plus qu'à lever le doigt pour payer.
Amigaleux, encore un plan qui gratte et qui fait des plaques rouges.
Graphiste, c'est bon, range ton stylet, ton ordi dessine mieux que toi.
Électronicien, t'es encore tombé sur une panne, mais tu t'en sors tant qu'elle est chaude.
Eh bien, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que je t'ai pas rebâché avec cette stratologie, hein. Ce n'était
non,
pas du tout visé.
Je vais juste envoyer des pommes, hein, c'est tout.
Eh bien, sur ces mots, nous nous retrouvons la semaine prochaine, le dimanche à 12h15, pour vous parler de tes vacances d'été au camping.
Alors, c'était pas des vacances, hein. C'était un...
T'étais pas au Fleu Bleu.
Non, j'étais pas au Fleu Bleu, j'étais au Sissi Camp. Mais je vous en dis plus la semaine prochaine.
À très bientôt. Merci les auditeurs. Bye bye.
Ciao, ciao.